RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde, avec cette semaine Tchambel Gimbayara de La Voix du Mali, Stéphanie Hartmann, Africa numéro 1, et Francis Patindé, journaliste indépendant et chargé de cours sur l'Afrique à Sciences Po Paris. Deux sujets au menu, le Mali avec cette visite à Gao d'Emmanuel Macron ou bien les premiers pas en Afrique du nouveau chef de l'État français. Et puis la Centrafrique, toujours sous le feu croisé des groupes armés, il y a eu des massacres et des affrontements meurtrier dans deux villes de l'est de la Centrafrique. D'abord, cette première sortie étrangère hors d'Europe d'Emmanuel Macron, depuis qu'il a succédé à François Hollande à l'Élysée. C'était à Gao, au nord Mali, vendredi dernier, il y a tout juste une semaine, une visite aux forces françaises de l'opération Barkhane. Stéphanie, est-ce qu'on aurait pu imaginer Emmanuel Macron ne pas continuer cette opération, ne pas finalement reprendre, si je puis dire, le flambeau de François Hollande, donc dans cette lutte antiterroriste au Sahel? Est-ce qu'il aurait pu décider finalement d'un rappel progressif des troupes ou pas?
Comme fait Donald Trump dans d'autres régions du continent concernant l'armée américaine. Non, c'est difficile. La France est très engagée et Emmanuel Macron l'a rappelé. Il s'agit aussi, surtout dans la doctrine de l'Europe et de la France, de la protection, de la stabilité aussi de l'Europe et de la protection, de la sécurité du territoire européen. C'est en tout cas comme ça qu'on le dit à l'Élysée. C'était surtout une visite aussi aux troupes françaises. C'était pas, malheureusement, c'était pas une visite au Mali. L'entourage du président a affirmé que c'était Ibeka qui avait insisté pour monter, accueillir Emmanuel Macron à Gao en début et en fin de journée. Ce qui signifie que si Ibeka n'avait pas insisté, il n'y aurait pas eu de rencontre entre les deux présidents. Moi, je suis pas sûre que ce soit une si bonne nouvelle. Alors, je suis très contente que Barkhane assure la sécurité de certaines régions du Mali. Cependant, je vois cette armée peut être perçue comme sa présence trop longue à long terme, comme une armée d'occupation, et du coup avoir un effet contre-productif sur la lutte contre le terrorisme et plutôt inciter à la radicalisation.
Alors je vous pose la question autrement, Francis. Est-ce que ces forces françaises de l'opération Barkhane, en tout 4000 hommes, 1700 rien qu'au Mali, un commandement semble-t-il basé au Tchad, est-ce que cette force française reste indispensable, notamment aux côtés des casques bleus quand il s'agit du Mali par exemple?
Oui. Parce que les casques bleus ne sont pas fonctionnels. Vous savez, vous avez plusieurs milliers de casques bleus au Mali.
Dans le cadre de 12 000.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça ne fonctionne pas bien. Et l'armée malienne n'est pas encore aguerrie, n'est pas encore préparée. Peut-être dans quelques zones du pays, mais pas encore pour pouvoir prendre en charge la sécurité de l'ensemble de son pays. Mmh. Donc, à cet égard, on peut comprendre ça. Mais toute mission étrangère a pour vocation de se retirer un jour. Donc, il faut se préparer à ce retrait indispensable. Parce que Macron, bon, je pense qu'il est entouré encore par la vieille garde, C'est du sang neuf, il est entouré par la vieille garde, donc la doctrine de François Hollande se poursuit.
Notamment à travers Jean-Yves Le Drian, le nouveau ministre des Affaires étrangères, naguère ministre de la Défense. Vous dites qu'effectivement il faut trouver un terme, je dirais, à toute opération militaire, a fortiori donc à l'étranger, loin de la France. Mais est-ce que cette solution ne passe pas également justement par un changement d'état d'esprit? Et ça, Emmanuel Macron a fait allusion à cette réalité. Un changement d'état d'esprit, notamment en Algérie. C'est-à-dire Emmanuel Macron, dans son discours à Gao, s'est montré quelque peu impatient. Il a demandé aussi bien à Bamako qu'à l'Algérie d'accélérer le pas pour définitivement asseoir cette paix au nord Mali en vertu des accords dits d'Alger. Tchambel.
Effectivement, Emmanuel Macron, il a dit s'il partait en tant que chef de guerre pour tenir une promesse de campagne, il a été accueilli avec des populations, deux chefs traditionnels, Songoï et Arma, à Gao. Et Gao, quoi que ce soit à 1200 km de Bamako, reste sur le territoire malien.
Mais est-ce qu'il a eu raison d'interpeller l'Algérie?
Il a eu raison surtout d'interpeller l'Algérie et d'insister là-dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre deux politiques, on ne peut pas comprendre l'Algérie qui abrite les accords de paix, depuis les débuts d'ailleurs, depuis l'accord de Tamanrasset, qui accompagne le Mali, qui soutient le Mali, et en même temps l'Algérie qui sert de refuge à Iyad Agali. Mmh. Il faut se poser la bonne question.
Francis, alors Iyad Agali, c'est l'un des chefs djihadistes.
Justement, l'armée française à plusieurs reprises a eu dans la ligne de mire Iyad Agali. Mais il se trouvait du côté de l'Algérie. Ils l'ont eu à plusieurs reprises. Moi, j'ai essayé de vérifier l'information et ils ne pouvaient pas agir. les soldats français ne pourraient pas agir parce qu'il est de l'autre côté. Et vous savez que l'Algérie est chatouilleuse pour tout ce qui touche à sa souveraineté. Donc il va falloir au moins que l'Algérie joue un jeu clair et limpide.
Quelque part, de la part d'Emmanuel Macron, au moins, il met les points sur les i. Alors que les dirigeants français sont généralement très hésitants lorsqu'il s'agit de l'Algérie, Stéphanie.
Les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale, on l'a vu encore récemment avec la poignée de main à Donald Trump, puisque c'est très commenté actuellement. Il s'affirme, hein, on sent que c'est quelqu'un qui va être droit au but, qui
audacieux,
c'était peut-être pas le mot, mais en tout cas ferme et sûr de lui. Et la preuve, c'est qu'Alger a quand même réagi à ces pressions. Ahmed Boutache, qui est l'ambassadeur d'Alger à Bamako, au Mali, a envoyé une lettre à la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, l'accusant de traîner les pieds justement dans l'application de cet accord. Alors la CMA, ça lui a pas du tout plu, cela dit. Et finalement, cette lettre a un peu plus compliqué les négociations qui avaient en cours, à Kidal.
Et le message à l'intention de l'Algérie d'Emmanuel Macron, sur son impatience à voir piétiner ces accords d'Alger. Ce message s'adressait également à Ibeka Tchambel.
Il s'adresse à Ibeka. Nous sommes dans une situation où la situation sécuritaire est en surenchère. L'armée malienne, des victimes tombent tous les jours, pratiquement. Et ça, c'est dans n'importe quel pays du monde, c'est intenable. C'est une situation intenable. Le Mali est face à ses responsabilités. Il faut mettre en place l'accord de paix. Et il faut trouver une solution que l'armée monte en puissance. Et surtout, il faut redéployer cette mastodonte des Nations Unies, de la MINUSMA, et puis le faire en intelligence avec Barkhane, et puis la progression de l'armée malienne. Il faut que le Mali réaffirme sa position sur son territoire, l'intégrité de son territoire, ceci n'est pas négociable, et n'est pas discutable. La mise en œuvre, quand même, si on ne prend pas en compte l'aspiration du peuple, des Maliens, ça va être difficile, à mon avis, de gagner la paix.
Ouais. Est-ce que ces accords dits d'Alger sur la paix au Nord Mali, ce ne sont pas des accords, dès le départ, brouillés? C'est-à-dire que, vous me direz si je me trompe ou pas, Francis, c'est-à-dire que les parrains de cet accord, l'ONU, l'Algérie, la France, etc., ont, semble-t-il, mis sur le même pied d'égalité Bamako et les groupes rebelles. Ce qui, quand même, je dirais, quelque part, est une manière de dire, voilà, aller à Kanossa, de dire à Bamako, voilà, vous allez vous soumettre, vous allez discuter quasiment, même si ça vous dégoûte, avec des gens qui vous menacent, qui prennent les armes.
Absolument, parce que, c'est vrai qu'il faut être deux pour faire la paix. D'abord, le problème de Kidal, laisser. Pourquoi les troupes françaises, les troupes internationales, onusiennes et tout s'arrêtent au port de Kidal? S'arrêtent d'une façon de parler, hein. Mais enfin, il y a plein de non-dits dans cette crise-là. Est-ce qu'on veut un Mali dans ses frontières d'avant, enfin de 1960, depuis l'indépendance? Est-ce qu'on veut un autre Mali ou un autre Sahel? Il faut le dire clairement, et ça c'est pas clair, parce que c'est pas que les militaires, il y a les politiques, mais il y a également les universitaires, y compris des journalistes d'ailleurs, qui participent à ce flou.
Tout à fait.
Stéphanie.
Ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on n'aurait pas mis sur le même plan les groupes armés et Bamako si l'armée malienne avait été efficace. Et
évidemment,
c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et malheureusement, donc on fait le constat d'une armée malienne inefficace depuis 2012. Qu'est-ce qui a été fait depuis 4 ans?
Il y a quand même des formations.
5 ans plutôt.
L'armée se reconstruit.
Elle se reconstruit, mais elle est montrée du doigt dans des
elle
rapports.
Elle monte en puissance, elle travaille, elle réoccupe certainement le Mali.
Mais elle ne peut pas elle seule assurer
elle
la sécurité.
Elle ne peut pas seule à ce stade de la situation, assurer la sécurité des populations.
Alors, juste un dernier mot, à propos du fait que donc Macron n'est pas allé, le président Macron n'est pas allé à Bamako, mais à Gao. Est-ce que ça vous...
Ça me titille un peu, ça me gêne, même s'il avait annoncé qu'il allait rendre... Et le problème de la capitale, une capitale, c'est un acte de souveraineté. C'est comme le drapeau, c'est comme les armoiries, vous savez, et donc, nécessairement, il faut passer, on imagine mal, Ibeka venir en visite officielle et passer par Bordeaux.
Stéphanie.
À cet événement. Par rapidement. Certaines opinions africaines comme une humiliation, et effectivement c'est un mauvais signe envoyé.
Et Tchambel, vous le Malien?
Moi je n'en vois pas de faire une polémique là-dessus. Je crois que Gao c'est le Mali, c'est à 1200 km de Bamako, et le président Ibeka est tout à fait dans son droit d'aller défendre les intérêts du Mali face à qui que ce soit, même si c'est le chef d'État français qui rend visite à ses hommes stationnés au Mali.
Voilà, qui est très fair play. Et on passe à la Centrafrique, où deux importantes villes de l'Est du pays, Bria et Bangassou, ont été le théâtre théâtre d'affrontements meurtriers et de massacres même de civils. Ces violences ont fait presque une centaine de morts selon des bilans de l'ONU. On compte des milliers de déplacés. Alors les divers groupes armés impliqués, Stéphanie, sont en gros d'un côté les milices chrétiennes anti-Balaka et puis de l'autre les ex-Séléka que l'on apparente à des musulmans hâtivement. Alors ces forces nuisibles contrôlent, d'après certains chiffres, 60% du territoire centrafricain. Autrement dit, plus de la moitié du pays échappe effectivement au contrôle du gouvernement légal de ce pays.
Alors je ne sais pas si on devrait les qualifier selon leur origine religieuse, que ça complique beaucoup la situation en Centrafrique, mais finalement c'est ce qui était déjà le cas en 2010 à peu près, en Centrafrique sous Bozizé. La majorité du territoire était aussi sous le contrôle des groupes armés, en tout cas elle n'était pas sous le contrôle de l'État. Avec le déploiement de Sangaris et de la MINUSCA, on avait un peu apaisé la situation sécuritaire. Malheureusement, l'État ne s'est pas redéployé dans les zones où ça a été apaisé. Finalement, ces groupes armés reprennent leurs habitudes qui sont... Alors, c'est pas très idéologique, ils se bagarrent aussi pour des territoires, c'est des pillages, pour les ressources. Finalement, c'est leur modus operandi, c'est leur mode de vie. Ça pose énormément de questions, et il faut savoir qu'à Bria, c'est sur 45 000 habitants, c'est 40 000 personnes qui ont été déplacées. Donc il faut surtout, ça interroge beaucoup sur... moi, je pense beaucoup aux Centrafricains, qui, depuis des années...
sont dans un pays à l'agonie.
Vivent à la merci des groupes armés, et malheureusement, face à un État aussi défaillant.
Alors justement, Francis, à propos... De ces groupes armés, Human Rights Watch a observé, l'ONG de défense des droits de l'homme, a observé que depuis novembre 2016, on voit apparaître des alliances entre d'ex-Séléka avec des anti-Balaka pour parfois se friter, s'affronter avec d'ex-Séléka. Bref, on voit bien, comme semble dire d'ailleurs Stéphanie, que les motivations sont ni religieuses, ni idéologiques, mais plutôt des motivations crapuleuses.
C'est une guerre de rapine. C'est des gens qui se s'allient sans connotation idéologique et tout. Parce que les Centrafricains sont pauvres, mais leur pays est riche. Riche en minerais de sous-sol, riche même en... Et donc, il y a beaucoup d'appétit. Il y a non seulement ces groupes qui font des alliances contre nature, comme vous dites, il y a également les États voisins qui jouent leur partition, des jeux qui sont pas très clairs.
Qui parrainent.
Voilà, c'est ça. Qui parrainent ces groupes. Donc, finalement, la religion, l'idéologie, ça, c'est aux antipodes de leurs préoccupations.
Chambel.
Oui, dire, en plus de Francis pointé du bout du doigt, c'est le parrainage des pays voisins, leur rôle. Également dans cette crise-là, la situation, le redéploiement de ces forces, la MINUSCA sur le territoire, et puis après les élections, aider quand même l'armée centrafricaine à se reconstituer, à sécuriser ses populations, et qui semblent être... Et surtout, comment, dans une telle situation, ramener la paix? C'est toujours le passage nécessaire tant qu'on ne fait pas face à ces situations-là dans une façon globale et qu'une gestion parcellaire de la situation. On pense que la solution militaire est possible avant d'arriver à faire évoluer avec la paix, discuter, mettre les forces en présence, discuter, dialoguer pour retrouver la paix.
Mais il y a quand même eu des dialogues, il y a eu des conférences nationales de réconciliation.
Il faut un désarmement, c'est surtout ça. Il faut désarmer. Le bandit qui se finance grâce donc aux richesses de la Centrafrique et qu'il faut désarmer. Alors la MINUSCA qui n'ont pas cette responsabilité-là. L'armée centrafricaine est aussi défaillante, parce que c'est quand même la défaillance de l'armée centrafricaine qui a permis le déferlement de la Séléka sur Bangui. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONU ne veut pas non plus lever l'embargo sur les armes, ni même armer la...
C'est allègrement contourné, ne serait-ce qu'en provenance du Soudan du Sud. Alors, on le dit peut-être pas assez, c'est que ce sont les populations civiles qui sont en première ligne. Donc, Bria s'est complètement vidé de ses populations. Plus de 40 000 personnes déplacées lors de ces derniers affrontements. Et puis, alors, autre difficulté pour ces populations qui dépendent quasiment totalement de l'aide humanitaire, c'est que les ONG se retirent pour des raisons sécuritaires, Francis. Et puis, surtout, les bailleurs de fonds avaient promis de l'argent à l'ONU et ces bailleurs de fonds n'ont rien donné, n'ont pas suffisamment donné. Est-ce que ça veut dire que les Centrafricains sont abandonnés à leur sort?
La responsabilité de gérer un pays, ça revient aux nationaux. Ça, c'est le principe de base qu'on oublie souvent en Afrique. On veut déléguer notre... Il faut arrêter de déléguer. Le paradoxe, comme je vous l'ai dit, c'est que cette crise intervient dans un pays, le seul pays démocratique d'Afrique centrale, si tant est qu'une élection soit le seul critère de la démocratie. C'est un pays qui a un président élu, un président de l'Assemblée nationale qui est un opposant au président, mais malheureusement, c'est un pays qui se trouve à une place stratégique centrale qui suscite des appétits.
Jean-Bel.
Le nombre élevé de victimes quand même laisse à croire que les Centrafricains sont aujourd'hui abandonnés. On ne peut pas admettre dans une telle situation autant de victimes civiles. C'est un conflit, ça c'est l'horreur, c'est la barbarie. Il faut arrêter cela, il faut se rebeller contre cet état de fait, il faut refuser cela. Et en même temps, la MINUSCA qui est là, qui ne joue pas vraiment son rôle, et surtout les
oui,
forces...
Oui, mais elle enregistre des pertes. Hein.
Oui.
On a envie de dire qu'ils font ce qu'ils peuvent.
Les quoi, pertes dans les rangs des soldats africains qui tombent.
Oui, 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 okay, qui font partie de la MINUSCA. Oui.
Qui incitent...
Des Marocains...
Qui incite l'Afrique
à s'impliquer
davantage dans la crise.
Oui, mais l'Afrique s'implique d'ailleurs, rappelons-le, hein, l'Afrique s'implique dans ses missions, que ce soit au Mali, la majorité des troupes de la mission de l'ONU, ce sont des Africains, en Centrafrique,
en Somalie,
les Burundais, par exemple, en Somalie. Donc de ce point de vue-là, les Africains s'impliquent. Mais quand même une question lancinante de plus en plus, Stéphanie, est-ce qu'il fallait retirer Sangaris, c'est-à-dire l'opération française en Centrafrique? Vous me direz, toute opération...
On regrette tous que la France intervienne. On aimerait que ce soit les armées africaines. Mais il faut dire aussi que ça fait 50 ans que l'armée française forme les armées africaines. Il faudrait peut-être que l'armée française se remette en question aussi. Donc non, j'en suis pas à souhaiter le retour de Sangaris. Cela dit, pour revenir sur les populations
civiles...
Est-ce
qu'il faut déplorer le retrait de Sangaris?
Il y a les Américains aussi qui étaient dans le sud-est du pays, qui sont aussi retirés, qui luttaient contre la LRA. On pense que ça a aussi un lien dans le regain
c'est
de...
C'est peut-être Donald Trump qui hiérarchise ses priorités.
Peut-être Sangaris, mais version européenne, comme on peut faire au Mali avec d'autres, pas seulement l'armée française, qu'on connaît l'armée française est depuis trop longtemps dans ce pays pour de mauvais résultats.
Alors, il est vrai, Francis, que souvent, les autres pays européens ont le sentiment que les opérations militaires françaises ne sont pas toujours très claires, au fond, et que c'est la France avec ses anciennes colonies, et qu'il y a toujours une sorte d'ambiguïté.
Ouais.
Est-ce que c'est véritablement suffisant pour expliquer le fait que les autres pays européens ne s'impliquent pas dans ces
opérations ? Bon, d'abord, ils n'ont pas la même tradition que la France. Ils veulent éviter d'être embourbés. D'être piégés par les politiques africaines de la France, qui ne comprennent pas toujours. Moi, je me félicite du retrait de Sangaris. Et ce qu'il faut, c'est former les Africains et donner des équipements de renseignement et de défense aux troupes de la MINUSCA, parce qu'il y a beaucoup d'Africains là-dedans. C'est formation, équipement, qu'ils aient accès aux renseignements aériens. Et puis après, ils peuvent assurer, ce sont des militaires comme les autres. C'est pas à la France, après les indépendants, de venir toujours au secours des Africains, parce que ça continue à conforter l'idée que les Africains sont des bébés.
À entretenir beaucoup de malaise. Chambel, on a vu s'installer une cour spéciale de Bangui, la cour spéciale de Bangui, chargée d'enquêter sur les exactions qui sont commises en Centrafrique depuis 2013. Est-ce que ça peut contribuer à faire baisser ou à faire peur finalement aux groupes armés ou pas, Stéphanie?
C'est comme la CPI, c'est pour l'instant elle n'est pas active, mais c'est déjà mieux que rien. Et il faut saluer le travail des organisations des droits de l'homme qui ont milité pour cette cour. Et ouais, il faut rappeler que sans justice, effectivement, la réconciliation et la reconstruction est difficile.
Chambel.
Je disais tout à fait à l'image de Stéphanie que la réconciliation, le chemin de la réconciliation passe par la case de la justice. Et ceux qui ont commis des crimes doivent répondre. Ça apaise, ça répare et ça rassure.
Mais concrètement, est-ce que ça fait peur aux groupes armés? C'est ça la question, Francis.
Moi, je ne pense pas du tout. C'est un tribunal ad hoc, comme il y en a eu dans d'autres crises, pour la Sierra Leone, par exemple. Mais c'est pas ça qui fait peur. C'est l'instant d'aujourd'hui. Ils veulent vivre. Ils veulent faire leur guerre de rapine. Ils veulent violer les gens. Ils veulent spolier les gens de leurs biens. C'est tout. Mais que demain, l'un d'entre eux, deux d'entre eux se retrouvent là-bas, je pense à demain, ils n'y pensent pas trop.
L'État centrafricain n'a pas les moyens de les arrêter.
Alors, l'État centrafricain n'a pas les moyens de les arrêter. Et on voit bien quand même que Faustin Touadéra, le président élu, fait ce qu'il peut. Il est au pouvoir depuis plus d'un an. Oui. Son premier ministre, semble-t-il, n'avait pas fait de discours devant le Parlement depuis qu'il a été nommé. Donc, c'est bien quand même le signe d'une impuissance patente française.
C'est un État qui n'a pas d'argent du tout. Vous savez, il est obligé de sillonner le monde entier pour trouver des subsides, pour payer assurer les salaires à la fin du mois. Bon, je pense qu'il faut les aider au plan économique. Il faut aider les armées internationales qui sont là-bas à défendre ce pays qui est situé dans un endroit qui est quand même stratégique pour toute l'Afrique.
Bien sûr.
Donc, c'est tout ce qu'on peut faire pour eux. C'est pas à la France de venir les délivrer.
Voilà. Et c'est la fin de cette émission. Merci Stéphanie Hartmann, Francis Patindé et à vous, Chambel Gambayara, et ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et rendez-vous à la semaine prochaine.